Le journal Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, quand prendre l'avion nous fait honte. C'est une nouvelle tendance écolo venue des pays scandinaves. De plus en plus de voyageurs choisissent le rail plutôt que le ciel. Moins polluant, mais beaucoup plus long. À suivre notre reportage en Suède. Nous entendrons également le pape de retour de Rabat au Maroc. Le pape qui justifie son refus d'accepter la démission du cardinal Barbarin. Dans l'actualité aujourd'hui, léger remaniement à Matignon avec un casting inattendu. Des élections pleines de surprises. Potentielle en Turquie mais aussi en Ukraine. On parlera aussi de la mort d'un jeune d'origine africaine après un contrôle de police. Une mort qui soulève la colère sur les réseaux sociaux. Et puis du nouveau sandwich à la mode, le tacos avec à la clé une impressionnante réussite économique.
Jeanne Haller, rescapée du génocide des Tutsis du Rwanda. À quelques jours des commémorations du 25e anniversaire du génocide, et l'invité d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Ça s'appelle le Flixcam, ça vient du nord de l'Europe et ça fait du bien à la planète. Flixcam, c'est du suédois, traduction littérale, la honte de l'air. En clair, la honte de monter en avion et de polluer l'atmosphère. En Suède, ils sont quelques dizaines de milliers déjà à refuser l'avion, gros émetteur de gaz à effet de serre, et à lui préférer le train, ce qui donne lieu à un autre mot valise, anglais celui-là, le train brag, la fierté du train. Direction la Suède avec le reportage de Frédéric Faux qui a rencontré des voyageurs militants prêts à faire 2 jours de train pour se rendre en Italie.
On s'est engagé à ne pas prendre l'avion cette année. Nous sommes inquiets pour le climat et nous avons voulu faire quelque chose de vraiment concret. Nous allons à Turin pour les fêtes de Pâques. C'est 37 heures de train juste pour l'aller. On n'a même pas regardé les vols.
Gino est vraiment emblématique du Flixcam. Cette honte de prendre l'avion était au centre d'un salon sur les vacances en train organisé ce week-end à Stockholm. Un rassemblement destiné à tous ceux qui boudent l'avion pour des raisons environnementales et imaginé par la Suédoise Susanna Elfors.
J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup à améliorer pour ceux qui voyagent en train. C'est difficile de réserver. Il faut changer de train plusieurs fois. J'ai commencé avec un groupe Facebook où on est 74 000 membres aujourd'hui. Et d'autres groupes se sont créés en Norvège et en Finlande. Ça continue à grandir.
La naissance de ce mouvement en Suède ne doit rien au hasard. Dans ce pays où l'hiver est très long, les habitants prennent en moyenne 5 fois plus l'avion que les autres Européens. Mais en à peine un an, l'influence de Flixcam se fait déjà sentir. Le nombre de passagers aériens sur certaines lignes intérieures a commencé à baisser, alors que la fréquentation des trains entre les principales villes du pays, mais aussi celle des trains de nuit pour les longs voyages, bat des records. Stockholm, Frédéric Faux, France Inter.
Le Flixcam et le Train Brag, ou comment changer ses habitudes de transport pour moins polluer, à retrouver sur franceinter.fr.
Lui n'a pas vraiment d'autre choix que de prendre l'avion. Le pape est revenu hier du Maroc.
Première visite sur cette terre musulmane depuis 34 ans, avec hier une messe à Rabat devant 10 000 fidèles, centrée autour du dialogue entre les religions. Et comme à son habitude, le pape s'est entretenu dans son avion du retour avec les journalistes. Question posée, pourquoi avoir refusé la démission du cardinal Barbarin, pourtant condamné pour non-dénonciation d'abus sexuels? La réponse du souverain pontife au micro de Mathilde Imberti.
Sur le cardinal Barbarin, il a donné sa démission, mais moi, je ne peux pas moralement l'accepter, car juridiquement, il y a la présomption d'innocence tout le temps que la cause reste ouverte. Ensuite, quand le second tribunal donnera une sentence, on verra ce qu'il se passe. Mais toujours avoir en vue la présomption d'innocence. C'est important, car cela va contre une condamnation médiatique superficielle. Il n'est peut-être pas innocent, mais il faut le présumer. Il est arrivé que la condamnation médiatique ruine la vie de prêtres qui ensuite ont été jugés innocents.
Voilà, le pape François qui par ailleurs n'a pas hésité à fustiger les médias pour leur goût du scandale, appelant les journalistes à éviter 4 péchés, notamment la désinformation et la coprophilie, autrement dit, l'amour du caca, et ce sont les propres mots du pape. François Hollande, lui, sort l'artillerie lourde contre Emmanuel Macron dans Le Parisien et hier sur France 2. Il est aujourd'hui plus près des idées de Nicolas Sarkozy que des miennes, a-t-il dit. On l'entendra l'ancien président dans le journal de 8 heures. La politique encore avec le grand débat qui s'invite à l'Assemblée nationale. Les députés consacreront 4 séances de discussion demain et après-demain à la transition écologique, à la fiscalité, la démocratie et l'organisation des services publics. Discussion sans vote, une perte de temps pour l'opposition. Élodie Forêt.
Comme tous les autres groupes, les insoumis prendront la parole et pourront poser une ou deux questions au gouvernement. Mais ce nouvel épisode du grand débat ne les enthousiasme pas, loin de là, le député Alexis Corbière.
Organiser un grand débat à l'Assemblée, dont le but de l'Assemblée c'est de débattre, c'est un peu grotesque. Le débat il a lieu tous les jours. Maintenant, elles en sont où les conclusions? Le fait qu'on passe deux jours à discuter ici est un élément qui fait perdre du temps. On perd du temps.
Non, il n'y a rien de gadget.
À droite, le député LR Philippe Gosselin est plus nuancé.
Il n'y a rien de gadget. Avoir un débat ici au sein de l'Assemblée nationale sur le grand débat, c'est pas annexe, c'est quand même un sujet qui mobilise nos concitoyens depuis des mois et des mois. Maintenant, tout va dépendre de la façon dont ça va être fait réellement. Il faut aussi que le gouvernement prenne les choses en main pour faire des propositions de lois, des propositions réglementaires, annoncer un second souffle pour notre société qui en a bien besoin.
Des propositions concrètes réclament donc l'opposition. La majorité, elle, joue la prudence.
C'est vrai que nous en avons élaboré quelques-unes.
Le député marcheur Jean-Baptiste Djebari.
Ce sera l'occasion pour chacun de confronter ses idées et de commencer à amorcer la sortie sur le plan politique cette fois-ci.
Amorcer des idées seulement, car la primeur des propositions, la majorité le sait, reviendra non pas aux députés lors de ce débat, ni au Premier ministre lors de son discours le 9 avril devant l'Assemblée, mais bien au président quand il le souhaitera.
Édouard Philippe lui fera, lui, le 9 avril prochain, une déclaration devant l'Assemblée nationale sans vote à l'issue du grand débat. Le Premier ministre qui voit arriver dans son équipe 3 nouvelles têtes, Sibed Ndiaye au porte-parole, Amélie de Montchalin aux affaires européennes et Cédric O au numérique. La garde rapprochée d'Emmanuel Macron s'est à retrouver sur le site d'Inter.
Il est 7h37, Sébastien, c'est une mort qui a créé une vague d'émotion, d'indignation sur les réseaux sociaux.
La mort d'Ange Dibenecha, un jeune homme d'origine africaine âgé de 31 ans. Justice pour Ange, réclame sur Twitter depuis hier matin plusieurs personnalités, dont les hommes politiques Benoît Hamon, Alexis Corbière et l'acteur Omar Sy. Une campagne qui rappelle celle contre les violences policières dans l'affaire Traoré. Ange Dibenecha, lui, est mort jeudi dernier après un contrôle routier. Il aurait été pris de convulsions après avoir ingéré une substance non identifiée. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Les précisions de Sarah Guibaudou.
Il est presque 2h du matin jeudi quand la voiture est contrôlée sur le périphérique au niveau de la Porte d'Italie. Au volant, un trentenaire originaire de Grigny, en Essonne. Il conduit malgré l'annulation de son permis. L'alcootest est positif. 20 minutes plus tard, alors que les motards de la police attendent l'arrivée d'un autre véhicule pour l'amener en garde à vue, le jeune homme aurait ingéré une substance non identifiée, mais il s'agit sans doute de cocaïne. Il en avait sur lui. Il est pris de convulsions. Les pompiers sont appelés. Ils font un massage cardiaque. Puis le jeune homme est emmené par le SAMU. Quand la famille est contactée vendredi, il est en état de mort cérébrale. Pourquoi avons-nous été prévenus si tard? C'est l'une des questions que posait sa mère dans la vidéo devenue virale hier matin avant d'être retirée. De sources judiciaires, il y avait dans la voiture des documents sous plusieurs noms, ce qui a sans doute retardé son identification. Pour rechercher les causes de la mort, l'autopsie doit être pratiquée aujourd'hui.
Sarah Guibaudot du service police-justice de France Inter. En bref, à l'étranger, un comédien sans expérience politique va-t-il prendre les rênes du pouvoir? En Ukraine, Volodymyr Zelensky est arrivé très largement en tête du premier tour hier, avec plus de 30% des voix contre 18% au président sortant Petro Poroshenko. Deuxième tour le 21 avril prochain. C'est une mode qui nous vient du Mexique et qui est en train de devenir le nouveau kebab des adolescents, le tacos tout aussi gras et encore plus simple à fabriquer. C'est la star du fast-food avec dans le rôle de l'entreprise française qui a du nez au tacos qui compte bien devenir 3 fois plus gros qu'aujourd'hui. Sébastien Sabiron s'est rendu à l'un de ses comptoirs.
Midi et demi, heure de pointe dans ce restaurant parisien, salle et terrasse bondée de lycéens de 5 à 14 euros le tacos à composer soi-même, ce qui donne des associations surprenantes.
Viande hachée, nuggets.
Cordon bleu.
Cordon bleu, merguez.
Viande hachée, nuggets et cordon bleu.
Oubliez les légumes et le guacamole du tacos mexicain, le tacos français tient au corps, 1000 calories au bas mot.
Franchement, ça glisse, ça passe crème, tranquillement.
C'est rapide, facile à manger.
On est calé vraiment pour 6 euros, donc.
C'est juste qu'on aime bien, parce qu'on est jeune, on mange de la merde, mais en vrai de vrai, c'est de la sale qualité.
Fondée en 2007 par trois Grenoblois, la franchise au tacos compte aujourd'hui 220 restaurants, une croissance fulgurante portée notamment par le rap et par les réseaux sociaux, youtubeurs en tête.
Alors si je vous dis oh, si je vous dis tacos, vous me dites au tacos.
Dans cette vidéo, on est parti pour regarder un tacos pendant 10 heures.
Le défi Gigatacos démarre maintenant.
Pour Bernard Boutboul, spécialiste de la restauration, la croissance d'Otacos est inédite en France.
Otacos a une vitesse de développement qui est supérieure à celle adoptée par McDonald's, puisque McDonald's ouvre entre 20 et 30 restaurants par an. Là, il en ouvre entre 60 et 80. C'est un peu le kebab nouvelle génération, en fait. Beaucoup de quantités d'aliments à un prix qui est très bas.
En mai dernier, un fonds d'investissement belge a pris le contrôle d'Otacos pour un montant tenu secret. L'enseigne vise 500 restaurants en France et dans le monde d'ici 2020.
Et pour perdre tous ces kilos, un peu de sport, pour terminer du sport scientifique dans la perspective des JO, en France, en 2024, 11 grandes écoles et le CNRS ont décidé de s'allier aux sportifs pour leur apporter des solutions. C'est le programme Science 2024, ou comment remporter des médailles grâce à la science. Parmi les 60 disciplines concernées, le paracanoë, discipline handisport. Sophie Becherel.
Ce matin-là, sur la base nautique de Vers-sur-Marne, des dizaines de kayakistes sont sur l'eau. Dans le hangar de la Fédération, une petite équipe s'affaire autour de drôles de sacs plastiques.
J'aimerais avoir quelque chose qui s'appuie sur toute la coque du bateau.
Non, pas forcément à gauche, mais en fait à droite, j'aimerais bien que ça puisse...
Raphaël Louvigny, 16 ans, est l'un des espoirs sur lesquels compte la Fédération pour les JO.
Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'aide pas?
Pour lui, qui a une jambe atrophiée et des problèmes d'assises, les chercheurs de Polytechnique ont créé un siège qui s'adapte à sa morphologie et sa croissance encore inachevée. Christophe Clanet, le directeur de Science 2024.
L'idée ici, c'était de faire des moules actifs, donc un peu sur le principe des civières de pompiers. Donc on fait des sacs remplis de billets de polystyrène. L'athlète s'installe, se met dans la position qu'il sait être la plus efficace pour son mouvement. Et une fois qu'il est en place, on fait le vide et il a un moule pour, disons, la journée.
Verdict après quelques coups de pagaie sur l'eau.
C'est bien.
Sur tous les petits problèmes qu'on peut avoir au jour le jour, c'est super. Mais après, je pense que pour ce que j'ai besoin, les dimensions pour l'instant ne sont pas adaptées. Il y aurait besoin de faire quelques ajustements.
Les chercheurs vont donc retourner au labo, mais déjà leurs propositions ont séduit l'aide coach de la fédération, Éric Leleuc.
On a aussi d'autres tests sur les tailles de pagaies, sur l'état de surface des bateaux au niveau de l'avancement. Enfin voilà, il y a plusieurs projets qui sont en cours. On est content que celui-ci ait vu le jour et on soit dans une phase déjà d'essai grandeur nature.
Les autorités ont mis la barre très haut. Elles misent sur 80 médailles en 2024.
Voilà, quand le CNRS vient en aide aux sportifs, reportage Sophie Becherel.
Merci Sébastien Legénie.